Le dossier de cette semaine porte sur le quartier de la Guillotière, quartier à deux pas de la Presqu'île, mais longtemps resté populaire et peu cher, qui se transforme énormément ces temps-ci, où l'on voit ouvrir de nouveaux lieux chaque mois et où le prix du mètre carré ne fait que grimper. On a alors voulu questionner ce qu'on appelle la gentrification du quartier. Pour cela, on s'est demandé où on dort à la Guille. Le reportage qui suit nous fait évoluer d'une auberge de jeunesse internationale ouverte sur le site de l'ancien bric-à-brac au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui gère notamment le bric-à-brac, qui a déménagé, et surtout des hébergements pour les sans-abris. À enfin la place Mazagran, où l'on dort aussi, où l'on peut.
So here, as I was telling you,
along the river.
Along the river is great. You have a view on the Hôtel Dieu, which used to be a former hospital that is amazing architecture. And
Le flâneur Gaston, bonjour.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que c'est les flâneurs?
Alors, le flâneur, c'est une auberge de jeunesse. C'est une auberge de jeunesse gérée en coopérative. Nous avons entre les 70 et les 80 lits. Nous proposons des solutions d'hébergement en dortoir. Du coup, avec des prix qui partent de 19 euros pour des dortoirs plus grands jusqu'à 25 euros pour des dortoirs très petits de 6 ou 4 personnes. Nous proposons aussi 4 chambres privatives. Donc c'est une auberge de jeunesse, mais ça peut être aussi à moitié un hôtel aussi.
Et c'est quel type de public qui vient ici?
On a un peu de tout. Il y a souvent des gens qui arrivent et qui nous demandent « Est-ce que je suis assez jeune pour venir chez vous ?» Et en fait, nous, on n'a pas des critères. On accueille tout le monde. On a beaucoup de jeunes voyageurs qui restent quelques nuits, une nuit, deux nuits, jusqu'à quatre nuits, une semaine. On a des voyageurs qui viennent de plus loin. Par exemple, voilà, d'autres continents, Amérique, Asie, Afrique et tout ça, qui s'arrêtent un peu plus. Peut-être ils font deux semaines, peut-être ils restent... Voilà, c'est le voyage bien organisé. Les gens qui viennent pour les week-ends. On a des gens qui arrivent sur Lyon et qui cherchent à s'installer. Et du coup, le temps de trouver un appartement, ils restent ici. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois aussi. Ça peut arriver aussi que les personnes se rendent compte qu'ils aiment bien vivre ici et qu'ils arrêtent de chercher des appartements et qu'ils restent ici. On avait des étudiants Erasmus, souvent. Mais aussi des gens qui sont en CDI et qui aiment être ici. Voilà.
Ça a ouvert depuis combien de temps?
Ça a ouvert officiellement le 31 octobre 2015. Du coup, ça fait presque deux ans, un an et demi maintenant. Je vois beaucoup de lieux ouvrir, même ça fait un an que je travaille ici et j'ai vu déjà une autre auberge de jeunesse ouvrir quelques rues à côté. Je lis sur les médias lyonnais des débats concernant les jardins d'Amarante, les bâtiments de rue Montesquieu et tout ça. Je sais qu'on parle beaucoup de ces changements, on les voit, donc à nous on fait partie de ça aussi. Donc. mais voilà, après... Il y a plusieurs coopératives qui ouvrent dans le quartier aussi, par exemple le court-circuit, eux aussi ils sont en coopérative, les Life Station je pense aussi qu'ils sont en coopérative. Il y a à la Guille, il y a l'autre côté de la rue, il y a l'autre côté du pont, il y a plein de lieux qui ouvrent comme ça et je trouve que c'est bien. J'apprécie énormément ça. Je pense que si c'est comme ça qu'on ouvre de nouveaux lieux, et bah, tant mieux.
Et toi tu as connu le bric-à-brac avant?
Non. Non. Il y a encore des gens qui viennent les chercher ici et du coup on leur donne la nouvelle adresse. Mais non, non je ne connaissais pas ça.
Et du coup, alors, ce bric-à-brac, moi, ce qui m'a fait vous appeler, c'était que je trouvais ça symbolique que le bric-à-brac devienne une auberge de jeunesse un peu branchée, internationale, tout ça.
Alors, oui, plus ou moins, en fait. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, le foyer a pour objectif d'être propriétaire de ces bâtiments. On puisse laisser en place des actions durables quand on accueille des familles dans un bâtiment et puis que du jour au lendemain, il faut qu'on déplace la structure, voire même qu'on ferme, on peut pas se résoudre à mettre des familles dehors, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir au maximum des bâtiments qui nous appartiennent. Le bric-à-brac, c'était un peu fait de briques et de broc, je dirais. Ça résonne bien avec le bric-à-brac, mais il était assez particulier, ce magasin. Vous rentriez dans une salle, la peinture au plafond était quand même pas très très heureuse. Ça avait son petit charme, mais en même temps, bon, de plus en plus, le magasin était plus vraiment, pas aux normes, mais il était pas vraiment adapté à notre clientèle, à nos besoins. C'était l'ancienne boucherie, quand même, ouais. Et on avait l'opportunité, puisqu'on a déplacé un atelier d'insertion qui était situé rue de Toulon, on l'a déplacé à Décines, on avait du coup une 500 m² qui se libérait comme ça, une belle surface finalement pour créer un magasin. Donc on a décidé d'ouvrir le magasin là-bas, même si c'est un peu plus excentré, même si c'est pas forcément les gâtiers. Mais voilà, donc le magasin en fait en lui-même, il est ouvert à tout le monde. Il n'a pas spécialement vocation à accueillir que des personnes en difficulté, mais puisqu'on a d'autres lieux qui sont plus réservés pour les personnes en grande difficulté, mais il a vocation à aider le foyer dans ses actions sociales. Alors, donc, rue Sébastien Griff, on a encore le plus gros centre d'hébergement du foyer, le centre Gabriel Rosset, dont on parlait tout à l'heure, qui accueille 191 personnes sans abri chaque soir. Qui est ô combien nécessaire. Il est important dans ce quartier. Donc ça, enfin, on parlait tout à l'heure de la gentrification du quartier de la Guillotière. Pour y avoir travaillé pendant une vingtaine d'années au cœur même de la Guillotière, je trouve que le fait qu'il y ait le centre Gabriel Rosset, ça permet toujours de garder, une nuance sur cette gentrification, puisque au quotidien, on voit tous les passagers qui arrivent, et du coup. Je vous assure que les passagers, malheureusement, ils ne se gentrifient pas, malheureusement, et qu'on a toujours des personnes encore plus en difficulté chaque jour qui viennent frapper à nos portes. De toute façon, on est bien sûr tributaire de tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Hein. Les personnes sans abri, c'est les personnes qui fuient des pays en guerre, c'est les personnes qui vont fuir des pays tellement pauvres que du coup, elles vont se retrouver propulsées sur des bateaux à risquer leur vie parce qu'elles ont besoin de gagner un peu d'argent pour la famille qui est restée sur place. On a aussi bien entendu des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie en France et qui n'ont plus de retraite suffisante pour pouvoir être autonomes. On a des personnes qui sortent de prison, on a des personnes qui auparavant étaient prises en charge dans les hôpitaux psychiatriques qui aujourd'hui vont les traiter dans les dispositifs de jour. Mais ces personnes, elles vont avoir une piqûre au tard, elles vont être suivies en journée, mais la journée, elles ne sont pas du tout autonomes, elles vont se retrouver soit dans les hôpitaux, soit dans les prisons, soit dans les centres d'hébergement, ou carrément même dans la rue. Et puis voilà, c'est des publics un peu gérés, mais qui vont aussi peupler les centres d'hébergement et qui vont parfois qui vont avoir beaucoup de mal pour trouver des solutions plus adaptées à leur situation. Voilà, c'est une histoire forte, ce quartier de la Guillotière. Et on s'aperçoit que finalement cette histoire forte elle perdure quoi. Heureusement, enfin, on pourrait imaginer par exemple revendre tout notre patrimoine immobilier, parce que sans Gabriel Rosset, c'est le bâtiment qui nous appartient. Un constructeur ferait certainement. On pourrait certainement vendre à prix d'or, et puis construire beaucoup plus loin, à Givors ou je sais pas où, dans des contrées un peu plus loin, un peu plus excentrées. Le problème c'est qu'on a des sans-abri qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Et qui nécessairement vont trouver toutes les réponses, tous les services sociaux, tous les moyens de s'aider en fait en centre-ville, et qui du coup si on ferme ce centre Gabriel Rosset, qu'on déplace, c'est une grosse difficulté supplémentaire pour les personnes sans abri. Donc
ça joue bien encore. Hein.
Enfin voilà, donc voilà un peu ce qui se passe.
Et puis, voilà, moi ce que je vois aussi dans le quartier, bah, c'est des gens qui dorment dehors. Hein. Place Mazagran.
C'est innombrable. Je crois que l'année dernière, le chiffre de personnes qui appelaient le 115 et qui n'ont pas eu de solution proposée, c'est de l'ordre de 2500, en moyenne. En moyenne, moi il y a 20 ans de ça, quand j'ai démarré au foyer, quand on avait 10 personnes l'hiver, c'était une catastrophe. Au jour d'aujourd'hui, on monte à 1500, 2000 personnes qui appellent, qui n'ont pas de solution d'hébergement. Ça ne veut pas toujours dire non plus que ce sont des personnes qui dorment dehors, mais pour la plupart, il y en a quand même une bonne partie qui ne vont pas avoir de solution forcément. Et ben, c'est un facteur chaque jour.
Ici, tu n'as pas besoin d'aller au théâtre. Hein. Au lieu d'aller au cinéma ou au théâtre, tu viens tranquille, mon gars.
Tous les jours.
Mais c'est quoi? Tu as actionné ça même, ma vertu?
Ben, je t'ai dit.
Et du coup,
vous êtes en train de filmer?
Non, non, tu vois, il n'y a pas de caméra. C'est le son, j'enregistre du son là.
Ah, vous enregistrez le son?
Pour Radio Canu.
Oui. Radio Canu.
Canon ou Canu, tu sais pas?
Radio Canu, on va amener les canons là-bas, comme le Pyongyang, c'est-à-dire au Corée du Nord. Vous voulez dire ça? Ils n'ont qu'à changer leur nom, ils n'ont qu'à écrire Radio Canonnière.
Vous venez souvent ici?
Ici, j'habite là-bas, ça s'appelle Hôtel Mercure 5 étoiles, à côté du Topogan. Et j'appelle Samy, il m'amène 115. Il m'amène Samy ou bien, comment on appelle les connards là? Croix rouge ou croissant rouge là.
Ici là?
Mais en face là même. Pas trop radoté.
Place où je dors.
Place où je dors. Là-bas, tu bois de l'eau. Là-bas, c'est les toilettes. Dans mon hôtel, entrée c'est gratuit, sortie c'est à discuter. Si tu viens avec une bière, tu as le droit de ronfler. S'il n'y a pas de bière, tu te recules.
Et alors, ça fait longtemps que vous êtes là?
Moi, en France, ça fait 10 ans de con.
Mais ici, ça fait combien de temps que vous êtes sur la place?
Depuis 2010, je fréquente ici. J'étais là-bas, comme on appelle, à Lidl, dormait là-bas, ils nous ont virés. Maintenant, c'est ici, mais à partir de 22h que j'ai le droit d'aller dormir. À 6h du matin, j'ai le droit de sortir pour les enfants, point à la ligne. Parce que celui qui amène les enfants pour jouer à 22h, il est bizarre. La journée, oui. Après moi, je dégage. Je m'assois ici. Cigarette, c'est fini.
Comment ça se passe alors?
À la pépère. Tranquille, dette coloniale.
Dette coloniale?
Ah, mais bien sûr. C'est très simple. Je suis de Guinée, Conakry-Poué. Je suis de la Guinée. C'est pas de la tête aux pieds, hein. Du cheveu aux pieds.
Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait. Si ça continue ou rien n'est fait, parce que les gens peuvent aussi avoir un peu d'initiative. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va venir? Exactement le cas des pentes. C'est-à-dire, tout ce qui fait de guillotière, le fait qu'il y a cette mixité, ces gens-là, ils seront obligés de partir. Ils vont partir. Et qu'est-ce qui va arriver? Peut-être ils vont garder leur commerce, hein, parce que les bobos ils sont un peu attirés par le quartier pour ses commerces, parce qu'il y a tout, c'est exotique, parce que qui parle de gentrification, on parle de bobos, donc moi je dis le nom, quoi. Ils vont pas se débarrasser des magasins exotiques, parce que c'est ce qui fait un peu la spécificité de la Guillotière par rapport aux autres arrondissements lyonnais. Et du coup, les masses populaires, une population assez liée à l'immigration, l'histoire de l'immigration à Lyon et dans le Rhône, tu vois. Là. Et du coup, ces gens-là vont partir. Ils vont partir parce que qui dit gentrification, dit évolution de niveau de vie sur certains critères quand même, l'immobilier, le commerce, ainsi de suite. Et du coup, comme eux, peut-être ils appartiennent pas à cette catégorie de classe moyenne. La conséquence de tout ça, ce serait quoi? Eux, ils vont partir de la Guillotière, ils seront remplacés par la classe moyenne. blanche, bobo, qui veut, je ne sais pas, sauver l'environnement, mais sans se rendre compte qu'il est en train de faire aussi du déclassement social.
Alors Laurent Lucas, je suis un designer. J'ai étudié aux Beaux-Arts de Lyon en option design d'espace. Et dans cette école, j'ai rencontré Emmanuel Louis Grand, qui est l'auteur de L'Îlot d'Amarante. Et l'aventure a démarré à ce moment-là, quoi. Donc on était vraiment tout jeunes, vraiment tout jeunes. J'ai monté la galerie Tator avec un ancien étudiant des Beaux-Arts aussi, qui était mon associé à l'époque. Et puis d'autres projets plus périphériques, comme L'Îlot d'Amarante, qui est vraiment né de la rencontre entre cet espace public, qui était complètement en déshérence, qui était un parking sauvage, issu de plein de dents creuses que la communauté urbaine était en train de gérer, préempter, etc. au fil des années, parce que c'est un projet très très ancien, qui a au moins, je sais pas, 60, 40, 70 ans presque, qui était de... Ce projet était de rejoindre et de prolonger l'avenue Félix Faure, qui s'arrête à Saxe, pour rejoindre le pont de l'université. Donc la ville préemptait tous les immeubles sur le chemin, ce qui faisait que les propriétaires n'entretenaient plus leurs immeubles, c'était devenu des marchands de sommeil, ça a paupérisé le quartier. En conjonction avec ça, il y a Notre-Dame des Sans-Abris qui était déjà là, qui aussi œuvrait dans cette idée d'hébergement, etc. Et qui a fait que le quartier a eu cette configuration-là.
Et vous étiez... déjà, le fait d'avoir ouvert la galerie ici, dans le quartier, c'était complètement innovant à l'époque.
Ah, c'est concours de circonstances. C'est toujours le même schéma dans toutes les villes, partout. C'est que quand vous avez des quartiers qui sont un peu abandonnés, avec des locaux gigantesques, à bas prix, machin, les premiers qui y arrivent sont des artistes. Ils occupent ces lieux, ils valorisent ces lieux, et puis les loyers montent, et ça se gentrifie, etc., etc. C'est ce qui s'est passé ici.
Vous êtes arrivé en quelle année ?
On est arrivé en 94. On était les tout premiers.
Ouais.
Vraiment les tout premiers. Il y avait dans la rue derrière, rue Chalopin, des blocs de 3-4 immeubles entièrement vides. Pas squattés, mais vides. Avec des cours intérieurs gigantesques. Nous on est arrivé ici parce qu'il y avait cet immeuble de 400 mètres carrés qu'on a occupé pour une bouchée de pain et ça a démarré comme ça quoi. On est resté et puis après on a fait des projets, ça a attiré par exemple le resto qui est à côté et puis il y a eu surtout aussi la politique de la ville qui favorisait l'implantation d'une certaine typologie professionnelle il y avait un cahier des charges pour pouvoir être aidé à l'installation, pouvoir se faire payer la vitrine ou payer des travaux, des choses comme ça. Je sais que par exemple les architectes, les graphistes, enfin, toutes ces professions-là ont été rentrées dans les clous pour ce type d'aide. Mais oui, on l'a vu changer, quoi. Et vous me disiez que ça s'accélère. Pas tant que ça, quoi. Ça s'accélère parce qu'en fait, je pense que Lyon... grossit, accueille l'équivalent de la population d'une ville comme Valence tous les ans. Il y a 15 000 personnes qui débarquent à Lyon. Donc forcément, il y a une pression foncière qui est de plus en plus forte. Donc il y a des quartiers énormes comme Gerland ou la Confluence qui créent du logement neuf. Mais dans des endroits comme ça en hypercentre, il y a 20 ans, 22 ans, 23 ans, quand on est arrivé là, Bellecour, c'est à 10 minutes à pied. Mais on avait le sentiment d'être à trois quarts d'heure de Bellecour. On n'était pas dans le centre. Par exemple, la DRAC, donc le ministère de la Culture, quand ils nous ont financés, ils nous ont dit « Non, non, mais vous n'êtes pas en centre-ville, ça va être dur, on ne peut pas se garer, enfin bref, tout un truc. » Alors que pas du tout, quoi. Et maintenant que la pression s'accélère, on s'est rapproché de Bellecour, quoi. C'est pas le quartier qui a fait que ça s'est accéléré. Oui. Le quartier, il y a une typologie, il y a une âme qui est sortie, L'Îlot d'Amarante y a participé à un moment donné. L'Îlot, c'était un peu comme Berlin à une autre échelle, mais il y a des gens qui construisaient des barbecues avec les pierres de démolition des immeubles d'à côté, et la police démontait le jour et reconstruisait le soir, et il y avait des fêtes, et, enfin, ça ressemblait à ça. Mais des endroits entre deux, quoi. Entre, avant le chantier, entre deux, à une toute petite échelle, parce que c'est à l'échelle de 4-5 rues, quoi. Mm. Mais c'est pas la dynamique du quartier qui a fait que ça a attiré cette population, cette gentrification. Etc. Mais je vous dis, le prix de l'immobilier, ça a pris un zéro, quoi. On est passé 400 euros du mètre carré à 4000 en 20 ans. Donc, forcément, de fait et naturellement, ça fait un filtre, quoi. Mais il reste encore des poches, quoi. Il y a encore des endroits qui sont... La ville n'a pas complètement terminé cette préemption, cette idée de ce boulevard qui rejoint le pont de l'université. Il y a encore quelques blocs d'immeubles sur le chemin qui sont pas encore... qui sont pas encore acquis et en cours de transformation, quoi.
Et comment vous voyez l'avenir, là? Vous pensez qu'on va rester sur un équilibre un peu mixte comme ça dans ce quartier ou...
C'est toujours la question de la pression immobilière. C'est-à-dire que si les prix continuent de monter, les gens qui sont en place, qui ont leur logement, ils sont quelque part bloqués. Mais quand ces logements se libèrent, les propriétaires réévaluent le loyer, même si c'est un peu cadré, ils réévaluent. Du coup, ces gens n'ont plus accès à ces logements, donc ça se fait doucement, en fait. C'est ça, c'est pas que ça s'est accéléré, ça se fait au fur et à mesure. Moi, je connais des gens, ça fait... Il y a une mamie, là, ça fait 70 ans qu'elle est là. Son loyer, il a suivi un petit peu la courbe, mais cette mamie, elle part ou elle vend ou... où le propriétaire récupère son logement, ça ne sera pas du tout le même prix. Donc, partir peut-être dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais ça se fait tout doucement. Mais malgré tout, je trouve que c'est un quartier qui a réussi à garder un peu cette mixité, cette population un peu en transit, et ces nouveaux arrivants, familles, enfants, etc. Je crois qu'il y a un croisement qui se fait, qui est assez réussi, quoi. Mais c'est quand même... Pour y aller de temps en temps... C'est une zone qui est quand même soumise à rude sollicitation, quoi. Si la ville ne prend pas vraiment soin de cet espace-là et le lâche un tout petit peu, ça peut vite partir en cacahuète, quoi.